journal. Bonjour Hélène Roussel.
Bonjour.
Avec à la une ce matin, les mots d'Olivier Véran dans Le Parisien. Le couvre-feu doit fonctionner, ce n'est pas une option, sinon ce sera le reconfinement avant le mois de mars et peut-être même dès la semaine prochaine. Les autres titres, Hélène ?
La pression de nos voisins européens où l'épidémie flambe, le variant britannique fait déjà des ravages au Portugal notamment, où c'est jour d'élection présidentielle. Adapter notre droit pour mieux punir les auteurs d'inceste, Emmanuel Macron dans une vidéo sur Twitter hier. Première fois qu'un président de la République aborde le sujet tabou. Et puis du foot avec l'OM qui s'enfonce, battu 3-1 hier à Monaco.
L'invité à 8h20, ce sera Jacques Attali pour son Histoire des médias, un livre de 500 pages qui vient de paraître aux éditions Fayard.
France Inter. Si le nombre de personnes hospitalisées diminue légèrement, la pression reste forte et le nombre de nouveaux cas, lui, ne cesse de grimper. Pour la première fois, même depuis novembre, jusqu'à 23 000 en 24 heures. Et les projections de l'Institut Pasteur sont sombres. Une hausse exponentielle des infections à cause du variant britannique est à prévoir. Le couvre-feu imposé partout à 18 heures doit donc à tout prix porter ses fruits et vite. Si ce n'est pas le cas, on n'attendra pas le mois de mars pour reconfiner, prévient à nouveau Olivier Véran, le ministre de la Santé dans Le Parisien ce matin. Un couvre-feu pas toujours évident à faire respecter, comme l'a constaté Alexandre Berthaud dans le quartier des Halles à Paris.
18h10, sortie du forum des Halles, la foule est dense, sur les escalators on double, sac de shopping ou portable à la main. En haut, la commissaire Torel, de permanence, supervise un contrôle.
C'est une situation qui pour nous est difficilement tenable. On a une population qui peut être fatiguée de ces mesures.
Monsieur, bonjour les services de police.
Il faut bien pourtant faire respecter la loi. Pour les agents de la brigade de contact, dans un premier temps, tolérance, pas de contrôle, des attestations.
On va pas verbaliser quelqu'un qui est dehors à 18h01, ce serait pas logique. Il faut beaucoup de présence, beaucoup de pédagogie. À l'issue, vraiment, quand la personne ne respecte pas, là, elle sera verbalisée.
Et puis, un homme et une femme marchant dans la rue.
Avez-vous une pièce d'identité à me présenter ?
Parce qu'en fait, on ferme donc l'établissement à 18h et après, on a le droit de rentrer chez nous.
Bah, heureusement.
Bah, voilà.
Attestation en règle, comme pour ces deux femmes, assises sur un banc.
On attend notre train avant d'arriver à la SNCF. Ils font leur travail, malgré tout. Hein. Le voilà, après, chacun a des cas particuliers.
Pas de verbalisation ce soir au hall, pas devant notre micro. En tout cas, il y en a eu dans le quartier depuis le couvre-feu, mais relativement peu, nous dit-on. Il est 18h30.
Ça commence à se vider, vous remarquerez.
Les policiers, dont ces contrôles sont une des multiples missions, termineront à 23h20.
Reportage Alexandre Berthaud, France Bleu, Paris. Autre mesure de restriction. Depuis cette nuit, minuit, test PCR de moins de 72 heures, obligatoire pour tous ceux qui arrivent en France par bateau ou avion, y compris donc pour les voyageurs européens. Et le gouvernement réfléchirait carrément à suspendre certaines liaisons. Selon la presse ce matin, le Rio-Paris pourrait être interrompu. La France fermait sa porte au Brésil. La France qui a passé hier le palier tant attendu du million de personnes vaccinées contre le Covid, mais c'est la course contre le temps qui passe avec ce reconfinement au-dessus de nos têtes. Une question de jour, croit savoir le journal du dimanche ce matin. Emmanuel Macron pourrait l'annoncer à la télévision dès mercredi à l'issue du Conseil de défense pour une mise en œuvre d'ici la fin de semaine prochaine avec limitation des sorties. Les modalités restent à définir selon le JDD, fermeture totale ou bien partielle des commerces non essentiels. Les écoles, en revanche, resteraient ouvertes comme en novembre. Il faut, dit le ministre de l'Éducation, assurer la continuité pédagogique. Cette décision si difficile à prendre va-t-elle s'imposer aussi sous la pression de nos voisins ? L'épidémie flambe en Europe. Exemple, le Portugal, où le variant britannique fait des ravages. 3000 morts depuis début janvier et une explosion des cas, 30 000 en un mois, soit le pays qui enregistre cette semaine le plus grand nombre de cas au monde en proportion de sa population. Situation hors de contrôle au Portugal malgré le reconfinement, crèches et écoles fermées. En revanche, élection présidentielle maintenue. Correspondance Marilyn Darcy.
La Covid fait rage au Portugal. La seconde vague s'y montre particulièrement offensive et les pouvoirs publics ont décidé de reconfiner depuis le 15 janvier. Une exception toutefois, le maintien du scrutin présidentiel de ce dimanche. Une décision qui divise le Portugal et a provoqué de nombreux remous, car elle accorde une autorisation de sortie pour le vote alors que tout le discours officiel est centré sur le « restez chez soi, protégez-vous ». Une suspension de l'acte électoral aurait exigé une modification de la Constitution. Un processus long et monotone, impossible à réaliser en si peu de temps. Les autorités ont donc maintenu le scrutin et rétabli la possibilité de circuler entre les municipalités pour 24 heures afin que les Portugais qui votent encore beaucoup dans leur village ou ville d'origine puissent se rendre à l'intérieur du pays. À leur sortir, prendre le risque d'un attroupement, les Portugais affirment qu'ils vont s'acquitter de leurs devoirs. Les sondages, eux, annoncent une abstention record de près de 75%. À Lisbonne, Marilyn Darcy, France Inter.
Emmanuel Macron s'est invité sans prévenir hier sur les réseaux sociaux.
Vous ne serez plus jamais seul, nous ne laisserons aucun répit aux agresseurs. Sur son compte Twitter hier, le président poste cette vidéo pour encourager les victimes d'inceste à parler et annoncer un durcissement de la loi comme un allongement de la durée de prescription. L'inceste qui n'est toujours pas une infraction à part entière mais seulement une circonstance aggravante. Emmanuel Macron brise un tabou 2 semaines après le livre de Camille Kouchner sur son beau-père Olivier Duhamel. 1 semaine après la rivière de témoignages sur les réseaux, 80 000 tweets MeToo inceste. Laurence Perron.
C'est la première fois qu'un président de la République s'exprime sur un tel sujet. Une intervention solennelle, mais absolument pas annoncée. Le flot de révélations sur les réseaux sociaux, suite à la publication du livre de Camille Kouchner, a convaincu l'entourage présidentiel qu'il fallait sur ce sujet un engagement fort.
Il nous faut entendre, recueillir les témoignages des victimes, même des années, des décennies après. Il nous faut les accompagner. Il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là.
Le président réclame au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et à Adrien Taquet, secrétaire d'État à la famille et à l'enfance, des propositions rapides, un allongement du délai de prescription notamment. Dans le cas de l'affaire Olivier Duhamel, il ne peut y avoir de poursuite. La loi doit changer pour que, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, la honte change de camp.
Éric Dupond-Moretti qui commencera à recevoir les associations dès demain lundi. L'Élysée qui a contacté la maman de Youri hier, selon nos confrères de France Info. Ce collégien de 15 ans sur lequel une dizaine de jeunes se sont acharnés la semaine dernière dans le quartier Beaugrenelle à Paris. Image de vidéosurveillance insoutenable, le jeune homme est passé à tabac, à terre, à coups de marteau et barre de fer. Plongé depuis dans le coma artificiel, son état serait en train de s'améliorer. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire par le parquet de Paris. À l'étranger, l'Amérique de Biden condamne la Russie de Poutine pour ses méthodes brutales. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier dans tout le pays pour demander la libération de l'opposant Navalny, mobilisation d'une ampleur historique et répression à grande échelle. 2500 arrestations. L'Europe également déplore les détentions massives. Le Canada se dit préoccupé. Dans le genre cauchemar, 22 mineurs coincés plusieurs centaines de mètres sous terre depuis 2 semaines maintenant en Chine. L'un d'eux vient d'être secouru sous l'œil des caméras. Il est physiquement faible, mais vivant.
L'actualité, c'est aussi le sport avec le football et l'OM, encore une fois battu hier.
Marseille embrasse coulée, 3e défaite d'affilée cette fois à Monaco. Le voisin Bruno Blanza de France Bleu Provence nous refait le match.
L'OM est plus que dans le dur, avec une seule victoire sur ses 8 derniers matchs de championnat et une 3e défaite enchaînée. Le capitaine Steve Mandanda.
C'est une saison qui est compliquée, c'est comme ça, il faut l'assumer.
Des mots polissés pour le gardien qui encaisse 3 buts sur coup de pied arrêté, tous en seconde période, alors que l'OM, solide et efficace, mène à la mi-temps. Mais vu leur seconde période, sans volonté de jouer, les Marseillais sont bien malades, même si leur entraîneur André Villas-Boas relativise.
Il n'y a pas de crise, parce qu'avec l'état d'esprit des joueurs, on était bien, on était focalisés, ils ont tous donné, malheureusement ça a tombé mal, évidemment. Parce que à chaque fois, on souffre beaucoup et ça nous quitte la confiance. Mais je pense qu'on va s'en sortir parce que l'attitude continue d'être là, le groupe est solide, le groupe veut. Malheureusement, à ce moment-là, tout se passe pour nous, qu'on continue à prendre des buts.
Décroché de la course au podium, l'Olympique de Marseille est en train de sombrer. Son nouvel attaquant Milik, pour sa première demi-heure hier, 30 minutes sans toucher un ballon potable, doit se demander dans quelle équipe il vient d'atterrir.
Le foot encore avec le derby Saint-Etienne-Lyon. Ce soir, 21h, 7 joueurs contaminés et sur la touche chez les Verts.
Voilà, c'était le journal d'Hélène Roussel. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Eh bien, il fait froid encore ce matin, Jean-Michel Golinski. Froid dans la moitié nord.
Eh oui, le ciel est dégagé. Les températures fluctuent entre 0 et moins 5 degrés. Des valeurs plus douces sur les régions méridionales, mais avec de la pluie dans le sud-ouest et sur la Corse, de la neige en montagne. Tandis qu'une nouvelle perturbation fait déjà son entrée rapide par l'océan, elle va donner un temps pluvieux ce matin sur une large moitié ouest du pays. De la neige sur les collines normandes. À la mi-journée, on va trouver retrouver cet axe neigeux avec une couche de 3 à 5 cm sur le centre, la région parisienne, les Hauts-de-France et ce soir du Grand Est au Dauphiné. Dans la moitié sud, maintien d'un temps maussade, sauf du golfe du Lion à la Provence, bien dégagé par un vent turbulent, mais la Corse sera copieusement arrosée. Et puis il va neiger sur l'ensemble des massifs à très basse altitude, d'ailleurs sur le relief de l'Est.
Jean-Michel Golinski de Météo France.